Que le Seigneur soit béni pour ces beaux cantiques. Si je me tais, oui, c'est un problème, ça. Apprendre à écouter Dieu. Alors ce soir, c'est une parenthèse dans le sujet sur le repos, mais qui complète bien. C'est comme un peu dans l'Apocalypse, il y a des parenthèses. La prédication que nous allons partager ce soir est une parenthèse qui nous permettra de mieux comprendre également ce qu'est le repos. Alors nous allons faire trois lectures, puis nous en ferons une quatrième tout à l'heure. La première dans Jean, chapitre 10, au verset 10, nous pourrions lire... J'avais l'intention de faire une prédication ce soir sur les mauvais bergers, parce que la Bible parle beaucoup des mauvais bergers. Si la Bible parle des mauvais bergers, ça vaut la peine d'en parler. Mais on y reviendra certainement avec la vraie vie. Peut-être que je mettrai les deux ensemble, les mauvais bergers et la vraie vie, puisque Jésus parle des mauvais bergers. Nous y reviendrons certainement plus tard. Mais dans ce contexte où Jésus parle des mauvais bergers, il dit également, Jean chapitre 10, verset 10, Jean chapitre 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Vous êtes d'accord avec cette parole? Est-ce que vous voulez que les brebis que vous êtes, que nous sommes, reçoivent cette vie en abondance? Bon. Par ailleurs, il est dit, par exemple, dans le prophète Osée, Osée chapitre 2, verset 16, une parole où justement Dieu veut parler. Parce que Dieu parle, vous le savez, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ça n'est une autre d'écouter vraiment ce qu'il a à nous dire. Donc dans Osée au chapitre 2, verset 16, on voit qu'il n'est pas parlé d'abondance, il est parlé de désert. Et ça fait partie également du plan de Dieu. Osée chapitre 2, verset 16. Prophète Osée, chapitre 2, verset 16e. C'est pourquoi, voici, je veux la tirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Moi, je vous avoue que la première fois que j'ai lu ce texte, que je l'ai vraiment compris, j'ai réalisé combien Dieu était capable de nous conduire là où on ne voulait pas, pour pouvoir nous parler. Nous allons lire une promesse dans le psaume 37, versets 18 et 19, ça s'introduira tout à l'heure dans notre prédication. Psaume 37. Si vous avez une concordance, je vous encourage à méditer ce genre de verset qu'on va lire. Psaume 37, versets 18 et 19. Parce que nous vivons des temps de malheur et de famine spirituelle. Psaume 37, verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Amen. Est-ce que vous croyez que c'est une promesse, hein? Dieu capable de rassasier les hommes intègres, même lorsque l'humanité est plongée dans la famine. Dieu, on va lire un texte qui nous servira de méditation, mais qu'est-ce que Dieu veut? Ce soir, nous sommes là, nous représentons la famille de Dieu, nous représentons les chrétiens, le corps de Christ. Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que nous le savons vraiment, ce que Dieu veut? Est-ce que vous savez ce que Dieu a préparé pour vous? Jonathan Guyot, est-ce que vous saviez que vous seriez à Toulouse en 2012? Il y a 5 ou 6 ans, est-ce que vous en doutiez? Non. Vous voyez, je prends un exemple, ce jeune homme est le fils d'un pasteur, il est arrivé, ça fait combien, en septembre, hein, avec son épouse, en octobre, conduit vraiment par le Seigneur, je peux vous dire qu'ils ont vraiment été conduits par Dieu. Il y a un an, vous ne saviez pas que vous viendriez. Voilà. Tout ça pour dire que le plan de Dieu, personne ne sait exactement ce à quoi Dieu nous appelle, où il va nous mener. Une chose est sûre, Dieu veut faire de nous des vases utiles. Vous connaissez ce texte dans 2 Timothée, pour ceux qui prennent des notes, 2 Timothée 2, 19 à 21, dans une grande maison, il y a toutes sortes de vases, il y a des vases d'honneur, il y a des vases en bois, il y a des vases en terre, il y a des vases d'un usage vil, il y a des vases en or, en argent. On voit bien qu'au fur et à mesure que nous nous appliquons à connaître Dieu, nous devenons des vases utiles. Vous connaissez la parabole des talents, le danger terrible pour les croyants qui enfouissent le talent et qui deviennent inutiles. Vous connaissez l'épître à Philémon où Paul parle de ça. Il dit, mais si tu pouvais amener Onésime, ce garçon qui était inutile et qui maintenant est devenu utile. On voit que l'on peut être inutile pour Dieu, et puis après tout un travail spirituel, celui qui s'accomplit entre autres ce soir, nous permet de devenir utile. C'est extraordinaire, quelqu'un qui est inutile et qui devient utile. Nous, on prie, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ne sais pas à quoi vous pensez lorsque vous priez, Seigneur, que ta volonté soit faite. À quoi vous pensez lorsque vous dites ça? Vous êtes sérieux. Mais je ne pense pas que l'on sache exactement ce à quoi ça correspond, même si on est à fond d'accord que ta volonté soit faite. On demande à Dieu quelque part, Seigneur, je veux devenir utile. Voilà. Nous pensons que nous serons utiles. Est-ce que vous êtes utile? Est-ce que vous voulez être davantage utile? Vous pouvez me répondre. Est-ce que c'est important pour vous d'être utile? Ou est-ce que juste vous voulez la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu? Parce qu'il y a des chrétiens, vous savez, et là c'est triste à dire, il y a des chrétiens, ils sont chrétiens au cas où, ils sont chrétiens parce qu'ils veulent être bénis, ils sont chrétiens parce qu'ils veulent être protégés. Bon, ce sont ces enfants égoïstes, eux, ils rendent grâce, c'est leur dernier souci. Rendons grâce au Seigneur, je vous assure qu'ils ne le chantent pas souvent, surtout Seigneur, bénis-moi. S'il y avait des cantiques là-dessus, ils le chanteraient. Donc, Dieu veut que nous devenions utiles. Seul Dieu sait ce qui nous rendra utile, parce que ce que Dieu fera dans votre vie sera différent de ce que Dieu fera dans la mienne. Vous comprenez bien que Dieu ne va pas nous faire vivre les mêmes choses pour que nous devenions tous utiles. Par exemple, Dieu peut permettre une épreuve dans ma vie qui fait que cette épreuve m'aidera à être utile. Mais est-ce que cette même épreuve, à vous, elle vous rendra utile? On ne peut pas savoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire attention avant de dire, tu sais, moi j'ai traversé ça, tu traverseras la même chose. Bon, on entend ça. Mais voyez, comment on devient un mauvais berger? En imposant les autres, les expériences qu'on a faites, en les imposant aux autres. Dieu, il est souverain. Il sait exactement ce que nous avons besoin de traverser pour que nous devenions utiles. Comment Dieu a fait avec Moïse? Comment Dieu a fait avec Moïse pour que Moïse devienne utile? Dieu a permis que Moïse reste 40 années chez son beau-père en train de garder des moutons. 40 années dans le désert pour que cet homme devienne utile. Nous, on pensait qu'il était utile. Aujourd'hui, Moïse, à la cour de Pharaon, mais c'est le gars utile. Il est déjà formé. Il a déjà tous les diplômes. Il a été à la meilleure université. C'est le gars qu'il nous faut. Vous voyez, aujourd'hui, on prendrait des Moïse sans qu'ils passent par les 40 années de désert. Je peux vous dire que c'est vrai et que je n'exagère pas du tout. Donc, Dieu sait que pour être utile, alors vous savez que Dieu nous bénit, on va développer cette notion de repos, mais justement, la notion de repos, c'est que pour être vraiment de mieux en mieux utile au Seigneur. Donc, Dieu sait le temps que l'on doit traverser, certaines épreuves que l'on doit traverser pour devenir utile, le désert. Alors, il y a Jean 10:10, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance, et là, tout le monde dit Amen. Et Joël, et Osée, on a lu, je veux l'attirer au désert pour parler à son cœur. Et là, tout le monde dit, vous dites Amen aussi? Oui, mais c'est bien. C'est bien si vous dites Amen, c'est bien. Le désert, c'est quoi le désert pour vous? Le désert, c'est l'école de Dieu. Voilà, si on pourrait appeler le désert l'école de Dieu. Ce n'est pas une école comme les autres écoles. Vous avez le souvenir de votre école avec le gymnase, avec le terrain de sport, avec les classes, le terrain de foot, le dortoir, la salle des profs, etc. C'est pas la même école que je veux vous faire allusion. Cette école-là, il n'y a pas de gymnase. C'est une école, il faut que tous nous la traversions. Tous. Absolument, il faut traverser cette école-là. C'est pas non plus le Sahara, le désert, c'est pas non plus le Sahara, parce que pour certains, Dieu va me conduire dans le désert, ça va être dans le Sahara, les scorpions, les dunes, ce que vous voudrez, les serpents. Non, ça peut être dans mon super appartement, super chic, dans votre maison, impeccable, dans votre abondance. Le désert, c'est un désert qui se passe dans le cœur. Vous pouvez être dans le désert et personne ne peut le voir. Personne ne peut le voir. Vous l'avez certainement vu, peut-être expérimenté, vous étiez dans un désert spirituel, personne ne le savait. Il n'y avait que Dieu qui le savait. Donc ce n'est pas, géographique. Quand je parle d'école de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend, mais ce sont des classes par lesquelles il faut passer. Vous savez comment ça marche, le CP, et puis après ça, il faut continuer. Et parfois on redouble. Qui a déjà redoublé? Il y en a qui ont déjà redoublé? Vous avez redoublé? Oui, vous inquiétez pas, moi je sais quelque chose. Ouais. Voilà. Dieu nous a placés tous dans des endroits différents. Actuellement, vous êtes à votre place, vous êtes là, à Toulouse. Ça fait combien que vous êtes à Toulouse? Dieu sait exactement. Voilà. Est-ce que vous savez où vous irez après? Est-ce que Dieu peut vous déplacer? Est-ce que vous pouvez aller dans une autre ville, dans un autre pays? Mais bien sûr. Dieu sait. Et le repos ne peut être compris que quand on croit dans la souveraineté du Seigneur. Car il y a une chose que nous pouvons faire, simplement, c'est faire comme Jean-Baptiste qui disait « il faut qu'il croisse et que moi, je diminue ». Seigneur, ça, tu le sais. Alors j'aimerais qu'on lise ensemble une histoire. C'est dans 1 Roi au chapitre 2. Dans 1 Roi au chapitre 17, nous voyons Élie qui arrive à un moment de sa vie où il doit passer par une nouvelle étape. 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, verset 1er. On va lire jusqu'au verset 7. C'est important, rappelez-vous que ces choses ont été écrites pour notre instruction. 1 Roi, chapitre 17, verset 1er. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab. Akab, c'est le roi d'Israël, qui était un roi méchant. L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. On peut lire la suite. Alors, la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta. Amen. » Donc nous voyons là une histoire qui nous permet de comprendre ce à quoi je veux en venir ce soir, comprendre la volonté de Dieu. Bon, on chante des cantiques extraordinaires. Je pensais cet après-midi, en préparant cette prédication, à ce cantique qu'on n'a pas chanté depuis longtemps. Jésus, nous te couronnons, nous te faisons roi. Je ne sais pas si vous connaissez ce vieux cantique. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. On l'a chanté ici, je pense qu'on l'a chanté, oui. Est-ce que vous vous rendez compte? On chante souvent des cantiques sur la royauté. Ça veut dire qu'on accepte le fait que Jésus est notre roi, que Dieu est notre roi et que c'est lui qui dirige notre vie. Alors Élie, qui va nous servir d'exemple maintenant, était un homme de la même nature que nous, oui ou non? On prend souvent ce texte de Jacques chapitre 5 où il est écrit « Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance et Dieu l'a exaucé ». Donc on accepte le fait que nous sommes tous de la même nature et que nous devons prier avec instance et que nous pouvons faire de belles expériences avec Dieu. Mais de la même manière que Élie a été conduit au torrent, de la même manière Dieu peut nous arrêter pour nous conduire dans un torrent également, pour nous parler. Parce que je pense que logiquement, la place de Akab, la place de Élie, c'était de rester au palais du roi. Parce qu'après tout, ce roi n'allait pas bien. Alors, c'était normal que Élie dise, ben, « Moi, ma place, elle est auprès du roi. Il a besoin d'entendre la vérité. Ce roi, il ne va pas bien. Moi, ma place, elle est au roi. » C'est comme ça. Est-ce que ça tient debout? Ben oui, ça tient debout. Et pourtant, Dieu va lui dire, « Écoute, non. Tu vas aller là-bas, près du torrent. » Vous avez vu comment il lui dit « Pars d'ici, cache-toi. » Voilà ce que Dieu demande à Élie. Et de la même manière que Dieu, que nous sommes tous de la même nature, de la même manière, Dieu sait que nous avons besoin de traverser certaines expériences. Est-ce que vraiment vous voulez que Dieu agisse en vous? Aujourd'hui, ce soir, 18 décembre 2012, est-ce que vous pouvez dire oui, je veux bien la bénédiction? De toute façon, vous l'aurez. Dieu vous bénira. Est-ce que vous croyez que, étant ses enfants, si vous avez accepté Jésus-Christ comme sauveur, est-ce que vous croyez que Dieu vous bénira? Moi, je pense que c'est comme ça. Ça fait partie des droits du Seigneur. Voilà, il vous bénira. Mais, ce n'est pas sûr que l'œuvre de Dieu pourra se faire. Que Dieu vous bénisse, vous protège, vous console, vous comble, etc., etc. Il le fera. Si vous le connaissez, vous savez qu'il le fera. Par contre, devenir utile, ce n'est pas sûr que Dieu pourra le faire, parce que là, ça demande vraiment notre contribution. Dieu sait exactement ce que Élie devait faire. Vous savez, quand vous lisez la suite, quand vous savez ce que Élie devra dire au roi, à ce roi qui est méchant, mais à cette reine, à sa femme qui est vraiment pire que lui, diabolique, quand on voit vraiment comment Élie devra être prêt. Dieu sait ce que vous allez traverser dans 6 mois, à moins que Dieu vous reprenne. Mais dans 6 mois, est-ce que vous savez? Vous voyez, Jonathan ne savait pas qu'il y en a, il serait à Toulouse. Vous ne savez pas? Ça va, vous n'êtes pas trop déçu? Non. Mais est-ce que vous savez ce que vous ferez dans 2 ans? Est-ce que Dieu sait exactement comment vous serez le 18 décembre 2014? Est-ce que Dieu sait? Est-ce que Dieu sait comment vous serez coiffé, comment vous serez habillé? Est-ce que Dieu sait où vous serez? Oui, Dieu le sait. Vous ne le savez pas, mais Dieu sait où vous serez. Vous savez que Dieu est tout puissant. Donc Dieu sait exactement ce que vous devrez faire. Par exemple, soyons plus pratiques. Est-ce que demain, Dieu peut mettre sur votre chemin un gars suicidaire? Dans le métro, est-ce que Dieu peut mettre quelqu'un qui a envie de se suicider? Est-ce que Dieu sait que vous devez être prêt pour lui parler? Vous comprenez si ce soir Dieu dit, mais prends courage. Vous comprenez que Dieu sait que demain, peut-être à 9h05, demain matin, vous serez dans le métro à côté de quelqu'un qui envisage de se suicider. Vous ne le savez pas. Mais si Dieu vous dit, prends courage, ce n'est pas que pour vous. C'est que vous puissiez en donner demain à ce gars. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce que je veux vous expliquer, c'est que d'un côté, il y a la bénédiction qui est énormément liée à ce repos. Mais d'un autre, il y a le processus de Dieu. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Dieu sachant exactement ce que nous allons faire, ce que nous allons traverser, ce que nous aurons à dire, les gens que nous allons rencontrer. Élie avait... Alors nous, on pourrait dire, mais non, ce n'est pas le moment que tu ailles te cacher au torrent. Ça aurait été moi, j'aurais dit non, écoute, ta place est au palais, moi j'aurais dit, mais voyez le plan de Dieu, et si on ne s'arrête pas comme on l'a chanté si bien, si on ne sait pas s'arrêter, on sera incapable de comprendre ce que Dieu veut pour nous on cherchera à répondre à des besoins, parce que nous on est programmé de tout petit, surtout quand on est chrétien, on a du zèle, on veut répondre à des besoins, et c'est sain et ça hyène, mais moi je peux vous dire aujourd'hui, que ce n'est pas parce qu'on veut répondre à des besoins que l'on fait absolument la volonté de Dieu. Dieu sait ce que vous aurez à faire un jour et Dieu va vous préparer pour ce que vous aurez à faire. Parfois, j'aime chanter ce vieux cantique qui dit « Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu ». On le chante souvent ici. « Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu ». Mais pourquoi nous voulons ce feu? Pourquoi nous le voulons? Pourquoi nous prions, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Parce que je peux vous dire que j'ai pris cet exemple parce qu'un jour, Dieu va utiliser Élie pour faire descendre le feu du ciel. Croyez-moi, il fallait qu'il soit préparé. Et Dieu lui dit, cache-toi. Et ce soir, je vous le dis en toute humilité, c'est peut-être quelque chose que Dieu veut que vous écoutiez avec beaucoup de sérieux, apprendre à se cacher. Se cacher pour se retrouver seul avec Dieu. Dieu voulait former Élie. Parce que Dieu voulait qu'Élie soit fort. N'oubliez pas qu'il était, pour ainsi dire, tout seul. Il y en avait qui n'avaient pas fléchi le genou, mais en fait, il se cachait, mais pas du bon sens. Il fuyait. Alors, peut-être que vous vous dites, non, moi je ne veux pas fuir, moi je veux être à l'écoute, je ne sais pas ce à quoi Dieu va m'appeler demain, après-demain, Dieu va me mettre demain, mais je ne sais pas ce qu'il me faudra faire. Élie, lui, devait dénoncer l'idolâtrie. Est-ce que ça peut vous arriver de devoir dénoncer l'idolâtrie en France? Vous voyez, c'est une question. Est-ce que ça peut arriver que Dieu veut que vous dénonciez certaines choses là où vous travaillez? Ben oui, mais Dieu le sait. Dieu sait, ça ne sera pas pareil. C'est pour ça qu'il n'y a rien de plus stupide que d'essayer, je l'ai dit tout à l'heure, d'imposer aux autres nos expériences. Nous devons faire chacun nos expériences. Élie aurait à dénoncer l'idolâtrie d'une façon assez difficile, mais il l'a fait, il était prêt. Où Dieu va nous placer demain, après-demain, personne ne peut savoir. Dieu sait ce qu'on va traverser, nous, on ne le sait pas. Moïse, qu'est-ce qu'il a pensé? Pendant les 40 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, pendant les 40 ans où il a gardé des moutons chez son beau-père. Est-ce que ça en fait 40 ans fois 365 jours? Ça en fait des nuits à s'endormir certainement et à se poser la question, mais est-ce que je ne me suis pas trompé? Est-ce que je ne me suis pas trompé? 40 ans dans le désert, à garder un troupeau qui n'était même pas le sien pour cet homme, quand même. Élie a été caché à peu près 3 ans dans le désert. 3 ans, est-ce que c'est long, 3 ans ?
Oui, c'est long.
Me cacher, moi ? Est-ce que Dieu peut vous isoler pendant un temps ? Ben oui, Dieu peut vous isoler. Pour un temps, pour... Je ne sais pas, est-ce que Dieu peut prendre un jeune homme ici, le mettre pape dans telle ville pour le former pendant 2 ans ? Est-ce que c'est possible ?
Mais oui, oui.
Comme Dieu peut amener quelqu'un ici, comme c'est le cas, peut-être Dieu l'a amené ici à Toulouse pour que, ben, on puisse le former en tant que pasteur. Arriver à ce stade où on pourra faire et on pourra dire ce que Dieu veut que l'on fasse et ce que Dieu veut que l'on dise. C'est extraordinaire. Là où Dieu nous a placés déjà dans la famille, mais déjà dans notre maison. J'aime ce cantique. Qui de nous entendra la voix du Seigneur ? Se cacher. Cache-toi. Cache-toi. Je suis persuadé que le repos que nous abordons depuis que j'ai repris est extrêmement lié à cette façon de faire. Cache-toi. Cache-toi pour être seul avec Dieu. Bien sûr que Dieu, je pense qu'il y a deux raisons. Dieu voulait le protéger, parce que Dieu veut nous protéger aussi. Parce que, attention, nous sommes ses enfants. Dieu peut nous amener dans un endroit pour nous protéger, pas que pour nous former. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien sûr qu'il y avait la formation d'Élie. La formation d'Élie, c'était vital. Mais en même temps, est-ce que Dieu veut nous protéger ? Ben oui, il faut pas oublier que nous sommes ses enfants. Et qu'en même temps que Dieu nous forme, il peut nous mettre dans un endroit pour nous protéger, également spirituellement. La famine, c'est quelque chose de terrible, la famine. Jésus a dit qu'une des prophéties de la fin des temps, il y aurait des grandes famines. Est-ce qu'il y a des famines sur la terre ? Ben oui, il y a des famines. Mais dans nos pays occidentaux, il y a des famines spirituelles. On parle de crise, tout ça, bon, c'est une chose. On ne va pas quand même se comparer à ce qui se passe à l'Afrique centrale. Mais mes frères et sœurs, il y a une famine spirituelle. Mais dans une famine spirituelle, j'ai pris le psaume 33, tout à l'heure on a lu le psaume 37. Voici l'œil de l'Éternel... et sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Est-ce que vous avez le respect de Dieu ? Oui, si vous êtes là ce soir, moi je pense que rien que déjà pour le souci de se garer, vous avez déjà envie de venir écouter la parole de Dieu. Dieu le voit. Dieu voit que ce soir, vous êtes venu dans sa maison, vous avez envie de connaître sa parole, vous êtes là, c'est obligé. Vous avez envie de discerner davantage la volonté de Dieu. Ça fait partie de la crainte de Dieu, à moins que ce soit de la superstition. Je pense que tout le monde est venu, pour ainsi dire, avec ce désir de mieux connaître Dieu. Eh bien, Dieu dit qu'il gardera vos âmes au milieu de la famine. C'est important ? Est-ce que c'est important ? Ben oui, c'est ça les promesses. On a lu tout à l'heure le psaume 37, l'Éternel soutient les justes, ils sont rassasiés au jour de la famine. Vous savez, c'est une famine terrible qui est sur la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du désespoir dans lequel vivent les gens de notre génération. Mais vous, vous êtes rassasiés. C'est une grâce. Est-ce que ce soir vous pouvez dire, oui, je suis rassasié. Je ne parle pas matériellement. Si vous l'êtes, béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur si vous avez à boire, à manger le matin, le midi, le soir. Mais... est-ce que vous pouvez dire, oui, mon âme est rassasiée dans ce temps de famine ? Mais vous êtes heureux si vous pouvez dire cela. Donc Dieu sait, pendant la famine, comment protéger quelqu'un, comment le diriger. Mais vous avez vu que lorsque Dieu conduit Élie à ce torrent pour le former et pour le protéger, on a lu au verset 7 qu'à un moment donné, le torrent est à sec. Et c'est là où je voulais en venir. Comment Dieu s'y prend ? Pour nous former, comment Dieu s'y prend pour nous amener ailleurs. Tout d'un coup, paf, la source, elle a tari. Et Dieu sait ce qu'il faut faire pour nous changer ou nous amener ailleurs. Si vous êtes ici à Toulouse ce soir, pour la majorité, c'est qu'à un moment donné, Dieu a fermé peut-être une source pour vous amener ici. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je suis sûr, après ce que vous allez entendre, beaucoup pourraient dire, oui, Dieu a fermé le robinet pour m'amener ici, parce que Dieu voulait m'amener ici. Je suis convaincu que beaucoup pourraient dire cette chose-là. Comment Dieu fait-il pour nous amener plus loin ? Est-ce que vous lui faites confiance ? Est-ce que cette source, elle aurait pu couler longtemps ? Ben oui. C'est Dieu qui voulait amener Élie ailleurs, parce qu'il l'avait préparé. Parce qu'il fallait qu'il fasse une autre expérience. Donc ce n'est pas parce que Dieu, excusez-moi l'expression, mais coupe les robinets, qu'il ne règne plus. Lorsque Dieu ferme les robinets, c'est parce qu'il veut nous amener ailleurs. Ça peut être un changement de travail. Souvent, c'est un changement de travail. Un changement de travail, paf, je suis obligé d'aller ailleurs. J'ai reçu une nouvelle orientation. J'ai reçu une nouvelle mutation, paf. Donc, une nouvelle mutation, ça veut dire que ce n'est plus la même église. Est-ce que ça peut être bien de changer d'église? Vous ne me répondez pas bien. Est-ce que ça peut être bien que Dieu vous mette dans une autre église? Oui. Est-ce que ça peut être moins bien? Non, non, mais c'est sérieux. Vous voyez? Pour certains, c'est bien. Pour d'autres, ce n'est pas bien. Mais moi, je crois quelque part que Dieu continue à nous former au travers de toutes ces situations. Oui, Dieu peut permettre que des sources, entre guillemets, se tarissent parce qu'il sait ce qu'il veut faire, il sait où il veut vous amener. Tout cela, bien sûr, quand on est dans un esprit d'obéissance. Parce que même si on est dans la bénédiction, dans un esprit de désobéissance, l'œuvre de Dieu ne se fait pas. Donc, Dieu m'a envoyé là. Je ne comprends pas. Un jeune homme m'appelait dernièrement et me disait, je suis là, dans cette église, il s'est passé ça. Voilà. Et j'ai appris ces jours-ci que ce garçon a changé d'église. Alors, est-ce que la source s'est tarie? Est-ce que Dieu voulait qu'il aille dans une autre église? Est-ce qu'il aurait dû rester? C'est délicat tout ça. C'est des vrais problèmes. Mais une chose est certaine, personne ne peut dire Dieu m'a oublié. On ne peut pas expliquer tout. Personne ne peut expliquer les choses. Regardez Job, les trois amis de Job, comment ils étaient pros de la parole et ils ont été tout faux. Mais une chose est sûre. Vous devez savoir que Dieu ne vous oubliera jamais. Où que vous soyez, quoi que ce soit qui se passe. Parce que c'est Dieu qui donne l'eau et c'est Dieu qui peut la reprendre. C'est écrit dans la Bible ça. Est-ce que Dieu peut nous donner l'abondance? Est-ce que Dieu peut nous conduire dans un désert? Mais bien sûr, Dieu peut donner une bénédiction. Dieu peut nous l'enlever. Deutéronome 32, 39, « Sachez que c'est moi qui suis Dieu. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. » Est-ce que c'est vrai? Eh oui, c'est vrai. Vous voyez? Et c'est une chose parce que le robinet se ferme, de faire comme Israël, vous savez, Ésaïe 49, 14 à 16, si on disait « L'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie. » Vous l'avez lu, Ésaïe 49, « L'Éternel m'a oublié. » Tiens donc, est-ce que vous avez déjà dit « Le Seigneur m'a oublié ?» On va être tous honnêtes, on va tous dire « Ouais. » C'est pas vrai, plus ou moins, on a traversé des situations, peut-être au début de notre conversion. Soyons honnêtes, parce que Dieu aime beaucoup l'honnêteté. Où on a pu penser, où on a pu dire que Dieu nous avait oubliés parce qu'on ne comprenait pas l'épreuve. Tiens, il m'a envoyé là, il a ouvert les robinets, et puis maintenant il ferme les robinets. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que vous compreniez ça. Parce que ce n'est pas possible d'être dans le repos de Dieu si vous ne croyez pas que Dieu ne peut pas vous oublier. Il ne peut pas. Il est catégorique, dans Ésaïe, il le dit, même si une maman abandonnait son fils, Dieu dit que lui, il ne nous abandonnerait jamais, qu'il nous a gravé sur ses mains, que nous sommes continuellement sous son regard. En préparant cette prédication, je pensais aux apôtres dans la tempête, ils avaient obéi à Jésus, il fallait traverser le lac, et là, paf, la tempête s'est levée, et certainement que leur regard était sur les vagues, mais il est dit que Jésus, sur la montagne, les regardait. Est-ce que vous savez que Jésus vous voit? Où vous êtes, Jésus vous voit. Nous sommes continuellement sous son regard. Ce n'est pas possible qu'un chrétien vive dans le repos s'il ne croit pas qu'il est continuellement sous le regard de Dieu. Il sait où vous en êtes. Vous voyez, vous êtes là, peut-être vous allez rentrer dans votre appartement, peut-être c'est l'appartement le plus chic que vous avez jamais eu, mais c'est peut-être en ce moment le désert. Moi j'étais à Tahiti, tout le monde me disait « Oh Tahiti, c'est formidable et tout ». Moi j'ai vécu un désert à Tahiti. C'était un désert. Et pourtant, il n'y a rien de plus luxuriant que la végétation en Polynésie. Mais mon cœur était dans un désert. Dieu l'avait voulu pour maintes et maintes raisons. Alors peut-être que quelqu'un ne comprend pas. Peut-être que vous dites, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je me désaltérais là, à cette source. Je pensais que Dieu me laisserait toujours là. Et Dieu permet cette situation. Oui, parce que Dieu veut vous amener beaucoup plus loin. Lisez la suite et vous allez voir si l'expérience que va faire Élie n'est pas une affaire extraordinaire. Dieu peut vous parler. Si je me tais, j'apprendrai. Mais Dieu ce soir peut dire à quelqu'un, mais c'est exactement ce que je voulais. Je t'ai amené là maintenant. Je veux que tu continues à te nourrir. Je suis toujours avec toi. fais-moi confiance. Est-ce que Dieu peut dire ça à quelqu'un ce soir? Fais-moi confiance. Je suis en train de te former. Qui veut être formé par Dieu? Qui veut être formé par Dieu? Parce que c'est quand même ça. Dieu voit. Je sais, bon, que vous leviez la main ou pas. C'est, Dieu voit surtout si vous levez votre cœur et si vous dites oui, je veux être formé. Eh bien, faites-lui confiance. Il vous amènera dans un endroit. Il peut faire en sorte que dans cet endroit, ça se passe bien. Il peut faire en sorte que dans cet endroit, ça se passe différemment. Mais acceptez que Dieu puisse toucher à certaines choses. Parce que nous, on veut bien que Dieu nous forme. On veut bien. Vous avez levé la main. Seigneur, je veux bien que tu me formes. Je veux bien que tu me formes. Mais ne touche pas à mon confort. Est-ce que c'est pas... Bon, on ne le dit pas comme ça. On est tous capables de dire, Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je veux faire ta volonté. Mais ben, tu vois ça, j'y tiens quand même. Est-ce que Dieu, pour former quelqu'un, peut lui enlever son confort? Est-ce que Moïse a vu son confort disparaître? Et moi, je trouve, oui. Peut-être qu'on veut, Seigneur, peut-être on veut la patience. Qui demande des fois la patience au Seigneur? Qui a demandé un jour, Seigneur, j'aimerais que tu me donnes la patience? Vous avez déjà demandé de la patience au Seigneur? Mais au fait, nous on ajoute, vous voyez, sans le dire. Je veux bien que tu me donnes la patience, mais pas trop d'épreuves. Est-ce qu'on peut avoir la patience sans épreuve, d'après vous? Moi, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas que ce soit possible. Quand vous voyez dans la Bible, par exemple, regardez, considérez les diverses épreuves comme un sujet de joie, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Jacques, chapitre 1er. C'est quelque chose de vital. Nous n'apprenons certaines choses que par des épreuves. Et Dieu sait ce qu'il doit faire. Dieu le sait. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être dans le repos si vous doutez de ce que Dieu doit faire dans votre vie. Dieu sait. La Bible nous demande de nous dépouiller de certaines choses. Est-ce qu'il y a encore des choses charnelles dans votre vie? Oui, dans la mienne aussi. Voilà. Jusqu'au jour où, tiens, je me rends compte que je le faisais pour moi. Maintenant, je me rends compte que je le fais vraiment pour Dieu. Oui, c'est pas une bénédiction, ça? Est-ce qu'on peut avoir fait des choses pour soi au début? Allez, aidez-moi. Est-ce qu'on peut avoir fait des choses que pour soi? Eh oui, soyons honnêtes. Et puis, il vient un moment donné où Dieu nous a dépouillés de certaines choses. Et ce que l'on fait, on le fait vraiment pour Dieu. Tiens, j'ai dit ça dans telle réunion. J'ai dit ça, mais c'était pour me défendre à moi. Parce que j'avais besoin de me défendre. Puis les années ont passé. Et puis j'ai dû parler, mais je ne me défendais plus à moi. Je défendais l'œuvre de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et bon, c'est résumé à une parole, mais quand même qu'on le veuille ou non, on se rend compte que l'on fait des progrès lorsqu'on compare certaines choses. Parce que qu'est-ce que la maturité spirituelle? C'est une question qu'on peut se poser, puisqu'on parle du progrès, la façon dont Dieu dirige, ferme la porte, ferme les robinets, il nous envoie ailleurs. Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle? Quand on lit un texte comme on lit ce soir, c'est être prêt à être employé par Dieu, Seigneur, mais c'est être prêt à être mis à l'écart aussi. Oui ou non? Est-ce qu'être mûr spirituellement, c'est accepter de dire, Seigneur, tu m'emploies? C'est bien. Tu me mets à l'écart? C'est bien. Est-ce que c'est pas ça la maturité spirituelle? En tous les cas, c'est ce que Dieu a fait traverser à Élie. On va terminer avec ce cantique qui dit « Mon âme en silence, je voudrais... » que nous comprenions ce que nous avons chanté, c'est dit différemment par le cantique que ça fait chanter notre frère M. Sinarinzi, mais comprendre que quand Dieu dit, alors qu'il y a énormément de besoins à quelqu'un, sors et repose-toi, alors qu'il y avait des besoins, c'était le seul, pour ainsi dire, capable de dire quelque chose. C'est que Dieu sait exactement ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que Dieu veut que nous connaissions le repos. Beaucoup de chrétiens sont toujours agités, je le répète, dans la crainte. Alors que ces choses peuvent arriver, je ne dis pas qu'elles ne peuvent pas arriver. Mais dans ces choses, dans toutes ces choses, on peut être plus que vainqueur. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut traverser plein d'épreuves, des angoisses, des situations difficiles, et ces choses-là, on peut les vivre dans la paix. On en a parlé un dimanche matin, je me souviens. Mais beaucoup de chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris Mais peut-être tout simplement à vivre un jour à la fois. Est-ce que Jésus en parle, ça, de vivre chaque jour? À chaque jour suffit sa peine. Le lendemain, on aura soin de lui-même. Bon, physiquement, on est obligé. Physiquement, on vit un jour à la fois. Votre corps, aujourd'hui, est dans la journée du 18 décembre. Mais physiquement, psychiquement, moralement, est-ce qu'on peut vivre dans le passé, dans l'avenir, dans le présent? Est-ce qu'on peut? Eh oui. Donc physiquement, on ne peut pas. Mais spirituellement, il y a des gens qui ne vivent que dans le passé. Et ils sont toujours dans la nostalgie. Il y a des gens qui ne vivent que dans le passé, dans l'avenir. Ils sont que dans l'espérance, mais pas dans la bonne espérance. L'espérance dont parlait tout à l'heure notre frère, c'est-à-dire qu'ils attendent des bénédictions. Ils espèrent, comme dans le monde, j'espère que ça ira mieux. Mais quand ils disent ça, moi je peux vous dire que ce n'est pas joyeux. Quand nous on dit j'espère que ça ira mieux, je pense qu'on espère quelque chose de fort, vous voyez. Dieu ne vous dira jamais quelle est la prochaine étape. Est-ce que dans la Bible, vous voyez Dieu dire à quelqu'un, ça va se passer comme ça, puis après dans 3 ans, ça sera comme ça? Est-ce que vous le voyez, ça? Vous voyez, c'est pour ça que Dieu est contre tout ce qui est chercher à savoir ce qui se passera dans l'avenir. Mais si vous saviez ce qui vous attend, est-ce que vous aimeriez le savoir? Est-ce que vous aimeriez savoir? Moi, non. Franchement, je pense pas. Dieu ne le veut pas, de toute façon. Dans tous les cas, nous ne connaissons pas l'avenir, à part les promesses. Mais nous connaissons justement les promesses de Dieu. Qu'est-ce que c'est qui est le plus important? Connaître l'avenir ou connaître les promesses de Dieu? Parce que c'est une vraie question. Ce qui est important, c'est de connaître les promesses de Dieu. Savoir que demain, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais demain, les promesses de Dieu s'accompliront dans ma vie. Si je reste fidèle, si je reste intègre, si je reste pieux, même au temps de la famine, je sais que le Seigneur bénira. Oui, un torrent asséché, ce n'est pas un jugement de Dieu. Et les chrétiens vivent très mal les épreuves. Moi, je vous assure, c'est un sujet qui me préoccupe. Vous le savez, j'en parle souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la direction de Dieu. Dans cette affaire d'un roi, ce n'est pas un jugement, le torrent qui s'assèche. Le torrent qui s'assèche, c'est une direction de Dieu. C'est pour ça, ne vous affligez pas si Dieu est en train d'assécher quelque chose dans votre vie. Dieu est en train de vous donner une nouvelle direction. Quand Joseph est jeté en prison en Égypte, moi je trouve que le robinet était sec, oui ou non? Vous ne trouvez pas que quand Joseph a été jeté en Égypte, on a coupé les robinets? Quand Paul à Lystre a été lapidé, il a été laissé pour mort. Moi je trouve que les robinets, c'est sec. Oui ou non? Est-ce que c'était un jugement de Dieu? Ou est-ce que dans la vie de Joseph et dans la vie de Paul, il n'y allait pas avoir une nouvelle direction dans leur vie? Qu'est-ce qu'il allait avoir? Vous le savez, vous l'avez lu. Il allait avoir une nouvelle direction. Ça semble un échec, mais en vérité, c'est une nouvelle direction. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens se mettent au point mort, frein à main, à fond, et voilà. Je ne comprends pas. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait une nouvelle direction. C'est important de le comprendre. Peut-être que dans une activité d'église, par exemple, quelqu'un est à la chorale. Est-ce que, par exemple, ça peut arriver qu'il n'ait plus envie de faire la chorale? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça veut dire que le gars, il ne vaut plus rien? Il sait plus. Ou est-ce qu'il peut y avoir une nouvelle direction? Eh bien, il peut y avoir une nouvelle direction. Vous voyez? Et on a fait de dire, oui, si tu n'es pas consacré. Mais c'est pour ça que je comprends pourquoi Dieu est capable de nous dire, mais cache-toi. Cache-toi. Ce qui est important, c'est que même si on ne connaît pas l'avenir, c'est que Dieu continue à nous nourrir de ses promesses. Ça, c'est important. C'est comme ça qu'on peut vivre dans le repos. Je ne sais pas ce que tu as préparé pour moi, Seigneur, mais moi, je me nourris de tes promesses. Et même s'il y a la famine, même s'il y a le désert, à partir du moment où je t'écoute, à partir du moment où j'obéis, tu ne peux pas faire autrement, parce que Dieu l'a promis, de me nourrir, de m'aider. Oui, il y a des torrents et des sources d'eau vive, même quand il y a la famine. Toujours, et puis si un jour ça ferme, il y aura autre chose. Nous ne nous en rendons pas compte. Nous, on ne sait pas trop où on en est. Est-ce qu'on sait vraiment où on en est? On ne sait pas trop. Vous voyez, moi j'ai lu des livres qui datent du siècle dernier, mais d'avant, quoi, de 100 ans. Tout le monde, tous les pasteurs pensaient que Jésus allait revenir pendant la Première Guerre mondiale. Ça va faire 100 ans. Quand vous lisez ces livres, vous avez l'impression qu'ils ont été écrits aujourd'hui. Les pasteurs disaient « Jésus va... » Mais c'est sûr que la Première Guerre mondiale, quand on voit tout ce qui s'est passé, c'est grave. Nous, on ne sait pas où on en est. Mais Dieu, lui, il sait. Ce qui se passe en vérité, c'est que lorsqu'on est dans le repos, petit à petit, certaines choses qui ne sont pas bonnes s'en vont de notre cœur et sont remplacées par des bonnes. L'orgueil est capable de s'en aller et à la place, il y a l'humilité. Nous étions rebelles, paf, nous nous rendons compte dans le repos que nous apprenons à travailler dans la soumission. C'est extraordinaire quand on peut travailler dans l'intersoumission. Vous travaillez avec du monde ? Est-ce que vous travaillez avec des gens ? Il y a des gens qui sont rebelles, avec qui c'est très difficile de travailler. Il y a des gens avec qui c'est facile de travailler. Les gens avec qui vous travaillez, c'est facile de travailler ? Sérieusement, vous le savez, au fur et à mesure qu'on apprend certaines choses, on apprend la soumission. Oui ou non ? Et c'est ça la grâce de Dieu. Et c'est comme ça après qu'on pourra faire ce que Dieu nous demande. Nous apprenons à bannir la peur. Pourquoi ? Mais parce qu'on a tellement vu la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez avoir peur ? En plus, Jésus le dit, n'ayez pas peur du lendemain. Non seulement il y a un commandement, non seulement il y a des promesses, non seulement ça revient sans cesse, mais quelqu'un qui a vécu et expérimenté la fidélité de Dieu n'a pas besoin d'avoir peur. Quelqu'un a appris à marcher par la foi. Quand vous faites ces expériences, laissez-moi vous dire que vous êtes presque obligé de faire confiance à Dieu. Chaque épreuve est un processus de formation. Et certaines choses remontent. C'est clair que quand on est éprouvé, ça remonte. Il y a quelqu'un qui me dit « Oh, je ne me rendais pas compte, mais je me mets souvent en colère. » Tiens donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre en colère ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça peut arriver à quelqu'un de se mettre en colère ? Alors, allons plus loin. Est-ce que Dieu peut permettre une situation pour que l'on se rende compte qu'on est colérique ? Ben oui. Pourquoi faire ? Ben pour nous délivrer. Pas pour nous dire, voilà, il y a ça qui ne va pas. Non, mais pour que l'on fasse une expérience. Parce que si on voit certaines choses dans notre vie, si Dieu permet que l'on voit certaines choses dans notre vie, c'est pour qu'on apprenne à les déposer. Parce que vous savez, c'est une chose de citer le psaume 37. J'ai pris un texte sur la famine du psaume 37. On va terminer avec ça. Dans le psaume 37, vous connaissez tous ce psaume. Enfin, tout à l'heure, on a lu sur la famine, je ne sais pas si vous connaissiez, mais vous connaissez tous le verset 5, tous. Si vous ne connaissez pas le verset 5 du psaume 37, c'est que c'est la première fois que vous ouvrez votre Bible. Psaume 37, verset 5, il est dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Vous êtes d'accord ? Bon, c'est une chose de le lire. Si on accepte, parlons des choses pratiques, recommander son sort à l'Éternel, tiens, je me rends compte que j'ai de la colère dans mon cœur, j'ai de la rancune dans mon cœur, tiens donc, je pensais pas, bon, qu'est-ce que je vais faire normalement si je suis intelligent, avec ce que je viens de lire, je vais le déposer au pied du Seigneur. Oui ou non ? Ou ça va partir tout seul ? Bon, ça ne va pas partir tout seul. Donc, je vais le recommander au Seigneur. Et si je le vis, je vais faire une belle expérience avec Dieu. Je vais donc faire des progrès et être capable d'aller dans une nouvelle direction. Alors, c'est ce que nous devons comprendre. Dieu révèle certaines choses, non pas pour nous juger et nous affoler, pour qu'on le dépose vraiment à ses pieds. C'est comme ça qu'on peut avancer et aller toujours plus loin. C'est vrai que Dieu a un désert pour chacun. Dieu avait un désert pour Osée, Dieu avait un désert pour, j'ai parlé de Joseph, Dieu avait un désert pour Élie, Dieu avait un désert pour Abraham. Abraham, ça a duré que 25 ans. Moïse, ça a duré 40 ans. Élie, ça a duré à peu près 3 ans. Combien de temps a duré votre désert, si vous en avez déjà traversé un ou plusieurs ? Ce qui est important, ce n'est pas le nombre de déserts que l'on doit traverser, c'est d'y rester le moins de temps possible. Ou d'y rester que le temps que Dieu veut. Et Seigneur, je vais apprendre à recommander mon sort à l'Éternel. Et si tu me montres quelque chose, ça ne va pas. Je ne vais pas considérer ça comme un jugement. Moi, vous savez que j'ai fait cet AVC, ça fait 3 mois et demi. Pendant 3 mois et demi, vous comprenez bien que j'ai quand même réfléchi à ma vie, à certaines choses, à l'avenir de l'Église, etc., etc. Et à ma façon même d'examiner mon ministère, car après tout, je sais très bien que j'ai des progrès à faire et que, vous voyez, je vous ai dit dimanche que dans certains domaines, j'étais devenu légaliste à cause de chrétiens légalistes. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est influencé par les gens avec qui l'on est. Et il y a des gens qui étaient légalistes dans l'Église, et il a fallu que j'y travaille à cette affaire. Parce qu'on a vite fait, voyez, d'utiliser une histoire comme ça pour parler de jugement de Dieu. Mais moi, je vous avoue que quand je lis cette histoire aujourd'hui, en entrant dans le repos, je vois la bénédiction de Dieu. Vous ne le voyez pas comme ça ? Cette façon, cette pédagogie que Dieu, malgré l'abondance, est capable de permettre un désert pour pouvoir parler à notre cœur, pour nous améliorer de telle sorte qu'il n'y a pas, moi je ne vois pas le jugement, moi je vois la bénédiction du Seigneur qui est capable de nous utiliser pour aider les gens qu'il va mettre sur notre chemin. Mes frères et sœurs, voyez la grâce de Dieu comme ça. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Et moi, je vous assure, j'ai demandé à Dieu, pendant ce temps difficile, moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, tu vois, si je dois continuer à prêcher, si je dois reprêcher, moi, je veux être utile. Parce que prêcher pour faire du mal, ça ne sert à rien. Moi, je veux que tous ensemble, on soit utile. Vous êtes d'accord, frères et sœurs ? Apprenons, quand Dieu dit, cache-toi. Je peux vous dire, je répète, je termine, Élie, vu le contexte, on aurait pu dire, attends, mais écoute, je suis tout seul, c'est pas le moment que j'aille me planquer dans un coin, moi je vais rester au palais. Il l'a fait. Et je peux vous dire que ça vaut la peine. Et si ce soir, au travers de ma simple prédication, je suis sérieux, cette simple parole, le Seigneur vous dit, apprends à te cacher, fais ce que tu as à faire, mais cache-toi au torrent. Cache-toi. Il y a des choses que tu vas apprendre, il y a des choses que tu vas recevoir, il y a des choses que tu vas prendre de ma part. Et qui te permettront d'être en bénédiction aux autres. Car la suite, on n'en a pas parlé, mais croyez-moi, Jésus en reparle dans les évangiles, la façon dont une femme qui était en train de se préparer à mourir a été bénie parce que Élie a traversé cette expérience. Et des gens prêts à mourir, laissez-moi vous dire qu'on va en rencontrer. Je ne sais pas si vous avez réfléchi, si vous avez regardé les informations sur le suicide assisté et tout ça, c'est un truc de fou. Hein, des gens qui se préparent à mourir, il va y en avoir. Mais si on a su se cacher, si on a su recevoir, expérimenter sa bonté, sa fidélité, et si tout ça, ça fait ressortir des trucs qui ne vont pas bien, eh bien, je vais les recommander au pied du Seigneur. En tous les cas, une chose est sûre, ceux qui sont fidèles ne manqueront jamais de rien pendant la famine. Que le nom du Seigneur soit béni.